Voulez-vous donner du sens à vos vacances? Vous avez peut-être la chance de profiter de ces congés de printemps pour partir quelques jours. Alors, il y a ceux qui ne peuvent pas partir, ceux qui veulent ne rien faire pendant les vacances, et puis ceux qui en profitent pour se réinventer, pour apprendre, pour découvrir de nouvelles activités, apprendre à fabriquer un parfum ou se lancer dans un atelier d'écriture, par exemple.
Toi, t'as fait un parfum comment, raconte-moi.
Frais, pas trop sucré, plutôt... Nature, comme ça.
J'ai mis un peu de vanille aussi pour le fond. Et sinon, ce qu'on va sentir en premier, c'est le thé vert, la tomate, la lavande des Alpes, le lotus et la bergamote.
Ça se passe comment, un stage en Bretagne ?
Tous les matins, on écrit, on voit la mer, on voit les bateaux, on voit le ciel, on voit les couchers de soleil le soir. Donc déjà, rien que pour ça, on est en vacances. On écrit un peu le matin, on va se balader, on écrit le soir, on dîne ensemble, on reprend les repas ensemble. Et enfin, à la fin du séjour, on a quelque chose de solide devant nous.
Bonjour à tous, c'est Un jour en France jusqu'à 11h. On parle de tourisme intelligent, formule pour parler de ces vacanciers qui ne se contentent pas de rester sur une serviette ou un transat ou de visiter les monuments dits incontournables de la ville ou du village. L'offre touristique en France s'est considérablement développée ces dernières années. Que peut-on faire pour passer des vacances intelligentes qui aient du sens? Que nous disent les grandes tendances du tourisme en France de l'évolution de la société? Reportage Philippe Lefebvre et en studio avec nous Josette Sixic, directrice de l'observatoire Touriscopie qui analyse à la fois nos vacances et notre société, et Patrick Maringe, le responsable éditorial des collections Voyages du Petit Futé, et nous attendons vos questions et interventions. À 10h50, ce sera un temps de pochon, rassemblement de soutien aux sans-papiers près de la place de la République, 20 ans après la première grande mobilisation. Combien de sans-papiers en France? Réponse d'un anthropologue dans la manif.
Le ministère de l'Intérieur dit 400 000, mais il dit 400 000 depuis 30 ans. Ça veut dire qu'il en expulse bon an mal an 20 000 ou 25 000 et qu'il en arrive à peu près autant puisque le chiffre total se maintient. En fait, il y a un volant de sans-papiers à peu près constant et qui travaille chez les sous-traitants des grandes boîtes du bâtiment, dans l'hôtellerie, dans la restauration et qui sont indispensables au fonctionnement de ces secteurs.
Un jour en France, toute l'équipe constituée d'Anne-Cécile Perrin, Clément Rouget, Marine Beccarelli et Céline Villegas vous souhaite la bienvenue.
France Inter, Un jour en France, Bruno Duvic.
Bonjour Josette Sixic.
Bonjour.
Vous dirigez Touriscopie, qui est un espace de veille sociologique et marketing des professionnels du tourisme. Avant de parler de ceux qui partent en vacances et qui essayent de donner du sens à leurs vacances, rappelons en préambule que beaucoup de gens ne partent pas en vacances à aucun moment de l'année.
Oui, alors malheureusement, ça ne s'arrange pas.
Oui.
On est autour, bon, selon les comptabilités, hein, c'est extrêmement difficile la comptabilité touristique, il faut voir ce qu'on compte et ce qu'on compte pas, mais enfin en gros on est sur à peu près 60% de départs en vacances, ce qui est quand même très très peu pour un pays riche comme le nôtre. Et on s'aperçoit que depuis la crise, depuis 2008 à peu près, c'est un taux qui continue malheureusement de baisser. Alors ce qu'on appelle vacances, c'est quand même 4 jours hors du domicile,
hein,
alors que le tourisme, c'est seulement une nuit hors du domicile.
Et le tourisme, ça peut être du tourisme d'affaires.
Voilà.
Est-ce que ces petites vacances-là, on est au cœur des vacances de Pâques, même si, ou de printemps, même si certains ont déjà repris, est-ce que c'est l'occasion de beaucoup de départs et quel type de séjour ?
Écoutez, il faut toujours avoir en tête que, d'abord, sur les 60% dont on a parlé tout à l'heure, il y en a 50% qui ne partent qu'une fois dans l'année.
Donc
ils partent qu'une fois dans l'année, c'est l'été. Ensuite, il faut aussi avoir en tête que, globalement, la moitié de la population, la moitié des partants, partent chez de la famille. Ça veut dire que, bon, c'est ce qu'on appelle l'hébergement non marchand. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir, ne serait-ce qu'une nuit d'hôtel. Donc, les vacances intermédiaires comme Noël et Pâques, c'est quand même réservé à une minorité. Hein. Sur cette minorité, il y en a une partie, la moitié au moins, qui va aller chez de la famille, où elle peut, quoi, en gros.
Oui.
Et puis, vous avez seulement une autre, peut-être une cinquantaine de pourcents, effectivement, qui va aller au sport d'hiver, qui va consommer du marchand.
Pas beaucoup de départs lors des...
Il y en a un quart à peu près, un quart des partants.
Patrick Maringe, en préparant cette émission, vous nous disiez l'offre de tourisme s'est considérablement développée en France ces dernières années. Ça se manifeste comment ? Quelles nouveautés ? Quelles offres nouvelles ?
Il y a beaucoup effectivement d'évolutions dans le paysage touristique français. Effectivement, on voit aussi, ça part des destinations qui, elles, veulent mettre en valeur certaines thématiques, permettre aussi des voyages qui se font tout au long de l'année, en tout cas sortir des saisonnalités, coller aussi avec les opportunités de voyage, même si tout le monde ne voyage pas, mais qui sont multipliées, que ce soit les RTT, que ce soit les personnes qui sont en retraite, donc qui sont hors un peu des circuits, des calendriers académiques. Ouais. Donc, effectivement, il y a toute une offre qui s'est développée. Donc, ça va de l'œnotourisme, qui permet vraiment de... C'est un touriste local, en fait, vraiment, où on est complètement ancré dans le local. C'est au séjour spirituel, où justement, on sort, on crée les conditions d'un voyage intérieur, en fait. Et on s'extrait de notre quotidien... par une retraite, donc c'est une bulle et qui touche de plus en plus de gens, enfin qui peut toucher pas uniquement les croyants, mais on peut faire des retraites en famille,
faire des
entre amis, en groupe, voilà, exactement. Il y a effectivement aussi tout ce qu'on appelle le tourisme solidaire, qui contribue, qui tâche d'équilibrer, de rendre durable le tourisme, de faire en sorte que les personnes qui accueillent en profitent réellement aussi, et de trouver des modèles d'échanges équitables et durables.
Donc il y a une offre de plus en plus vaste et on verra que, notamment dans les guides que vous proposez, ça se manifeste là aussi. Alors, si vous avez des questions sur notre sujet du jour, comment donner du sens, comment passer des vacances différentes, 01 45 24 7000, unjourenfrance@radiofrance.com. Le mot-clé sur Twitter, c'est Jour en France, et il y a notre site internet franceinter.fr, la page de l'émission. Un jour en France. Jean-Louis Murat à 10h14 sur France Inter. French Lynx.
Et tu penses une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans le vide. Ici, dans la vie, d'ici, tu rumines au sextant, tu te crois indigène, mais tout est éboulifile, chanté dans la plaine, tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel, autant que tout emporte, rien ne tient le contre-courant dans la vie. Sous les caresses bleues, tu cherches vent à dos au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les os dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici. Le cœur et le cerveau, petit alu de Lorraine, corolle de lumière, giroflé des moraines, ventricule du cœur qui crache dans l'artère, ma petite marmotte ne va pas t'engourdir tout l'hiver dans la vie. D'ici, dans la vie.
Oui, Buongiorno Francia.
Bruno Duvic,
un jour en France,
sur France Inter.
Et il est 10h17, profitez de ces congés pour apprendre quelque chose, passer des vacances intelligentes. Première illustration en reportage ce matin, nous allons sur la Côte d'Azur. 11 millions de touristes français ou étrangers chaque année et à quelques kilomètres de la mer, grâce à la capitale mondiale des parfums. Depuis 3 ans, les ateliers pour apprendre à fabriquer des parfums se développent dans la ville. Philippe Lefebvre a assisté à l'un de ces ateliers chez Fragonard.
Marianne, vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ?
Alors, je leur fais sentir un nouveau produit et on va essayer de le découvrir ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça vous a rappelé une fleur ?
Oui, non. Là, enfin, moi, je suis sur de la rose. J'ai vraiment le côté rosé, mais on a ce côté un peu citral, un peu...
Oui, alors en fait, c'est un peu... Elle est un petit peu rigolote, cette matière, parce que c'est vrai qu'elle est très rosée, mais on a du mal au départ à la classer parce qu'il y a ce côté mentholé. Et du coup, oui, ça la rend un peu plus unisexe, un peu masculine aussi. Et du coup, voilà. Et du coup, on a au départ un petit peu du mal à la classer. C'est le géranium.
D'accord, très bien.
Alors le géranium, hein, on n'utilise pas les... En parfumerie, on n'utilise pas la fleur, mais la feuille pour obtenir en fait son odeur.
D'accord. C'est vrai que j'avais vraiment la fraîcheur en tête. Et là, j'ai la douceur de la rose qui intervient.
Si moi, je suis une totalement néophyte, est-ce que je saurais faire un parfum comme, je sais pas moi, Chalimar, 5 de Chanel ou autre ?
Bien sûr. On va vous aider pour faire ça. Non, en fait, vous allez apprendre un peu mieux à connaître toutes les matières qui vont composer un parfum, comme les matières qu'on va plutôt utiliser pour faire de la cuisine. Et après, on va vous aider à aller vers des formules plus simples quand même. Une eau de Cologne classique. Après, on va vous aider à donc l'améliorer, lui donner plusieurs facettes. Mais oui, bien sûr, vous allez pouvoir comprendre un peu mieux les parfums et les matières premières qu'on utilise pour les fabriquer.
Pourquoi c'est plus simple une eau de Cologne ?
C'est parce que c'est des odeurs que vous connaissez plus, type les agrumes, citron, orange, bergamote, c'est des odeurs fraîches qui vous rappellent l'enfance aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plus connu, c'est moins abstrait.
Alors, un nez à libre choix. Vous, quand vous faites vos parfums avec les professeurs qui sont là, on vous donne 9-10 essences de base, disons. Si cette année, on célèbre la fleur de l'iris, on va surtout travailler autour de l'iris.
Ben nous, on passe nos vacances à Nice et quand j'étais en Belgique, j'ai préparé le voyage. Je me suis dit, mais on est près de Grasse, la capitale mondiale du parfum, je pense. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un atelier, je me suis inscrite.
Toi, t'as fait un parfum comment, raconte-moi.
Frais, pas trop sucré, plutôt nature, comme ça.
J'ai mis un peu de vanille aussi pour le fond. Et sinon, ce qu'on va sentir en premier, c'est le thé vert, la tomate, la lavande des Alpes. Le lotus et la bergamote.
Cette expérience, pour vous, c'était enrichissant ?
Très enrichissant. On vient de passer 2 heures vraiment magiques. Hein. C'était super.
Alors, Franck Henry, on est ici à l'Office du tourisme de Grasse. Et j'ai l'impression que la fabrication des parfums par les touristes, c'est devenu le produit tendance.
C'est vrai qu'il y a un véritable engouement pour ça. En plus, c'est peut-être un des seuls endroits où on peut faire ça, voir, comprendre et créer son parfum.
Alors, ça va des petits stages très courts à des choses beaucoup plus élaborées.
Des petits stages très courts, de 1h30 à 2h, chez nos amis parfumeurs, à des stages beaucoup plus élaborés, comme à l'école de parfumerie, où là, on va passer beaucoup plus de temps, ce sont plusieurs semaines, à étudier, à comprendre et à créer son parfum aussi.
Nous sommes toujours avec Josette Sixic, directrice de Touriscopie, et Patrick Maringe, le responsable éditorial des collections Voyages du guide Le Petit Futé. Voilà, là on a un exemple d'offre touristique, Josette Sixic, qui se développe pour ancrer un peu plus les touristes de passage dans un territoire et leur faire dépenser plus de sous au fond. Hein.
Oui, voilà, hein, le tourisme, faut pas l'oublier, c'est une industrie. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus sur du passe-temps, on n'est plus sur du loisir, on est sur une industrie qui tous les ans voit défiler en international 1,2 milliard de personnes. En France, on a plus de 80 millions de touristes internationaux. Donc, on est quand même sur un autre registre que celui d'antan. Donc, évidemment, pour des parfumeries, comme pour n'importe quel autre secteur, hein, pour un viticulteur, etc., il y a des revenus additionnels possibles. Donc, on a créé une offre, qu'on a créée d'ailleurs avec beaucoup de talent. Hein. Oui. Il y a une véritable professionnalisation aujourd'hui, dans à peu près tous les secteurs. Donc on a créé une offre touristique autour du parfum. Il y a les balades explicatives, il y a les ateliers, il y a les tests, etc. Et pourquoi pas, hein, certaines personnes peuvent se l'offrir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça a un coût, hein, tout ça. Donc ça n'est pas réservé aux tout venants. Là encore, on est, disons, sur une minorité qui va pouvoir s'offrir ce type de loisirs. Mais globalement, l'offre effectivement touristique s'est considérablement étoffée. Donc on a une demande, évidemment, qui s'est étoffée aussi.
Tourisme intelligent, vous mettez quoi derrière cette expression, vous ?
Écoutez, c'est un peu la question que j'ai posée hier à votre assistante. Le tourisme, au départ, c'était forcément du tourisme intelligent, puisque le mot de tourisme vient du mot de grand tour, l'expression du grand tour que les aristocrates anglais ont commencé à pratiquer dès le XVIIIe siècle. Il y a des très beaux textes qui datent de cette époque, en particulier Smollett, qui raconte le grand tour d'un hypochondriaque anglais qui partait faire le tour d'Europe. Donc on faisait ces tours pour découvrir l'autre, oui, pour découvrir l'ailleurs. Donc le tourisme, normalement, c'est à 90% la motivation du tourisme, hein, pas des vacances, c'est de découvrir. Hein. Les gens vous disent « je veux découvrir quelque chose ». Alors après, découverte culturelle, essentiellement patrimoniale, puisque c'est la première qui vient à l'esprit, oui, mais il y a aussi quand même toujours cette tentative d'apprendre, hein, d'apprendre. Donc pour moi, c'est ça, hein, c'est un peu un
pléonasme. Il y a eu aussi un tourisme de masse qui s'est développé, qui consistait à prendre un avion, un train ou une voiture, se poser à la plage, y rester 15 jours et repartir.
On n'est plus sur des vacances, voilà, là, hein, on n'est pas sur du séjour touristique. Bon, c'est très embêtant parce qu'on manque de mots, oui, mais c'était des vacances. Mais il y a tout de suite eu cette réaction, on ne veut pas bronzer idiot, hein, dès les années 70, du festival de Tabarka, dont le slogan était « je ne veux pas bronzer idiot ».
Patrick Maringe, tourisme intelligent, que ce soit à Pâques ou les grandes vacances, donnez-nous des idées.
Ah ben, y a plusieurs possibilités. Alors si vous voulez, à Pâques, vous pourrez commencer à profiter des beaux jours en partant sur un parcours œnotouristique, oui, en Alsace. C'est vrai que c'est un domaine que j'aime bien, en tout cas, qui pour moi reflète pas mal le côté intelligent, enfin, ouais, qu'on évoque.
Il y a aussi des routes des fromages, des routes des olives.
Voilà, qui maintenant emboîté le pas, alors voilà. Mais, ouais, mais le fait est qu'effectivement, il ne s'agit pas uniquement d'aller de propriété en propriété, de libation en libation et de bacchanal, ouais, en bacchanal. C'est vraiment de tisser, en fait, tout un réseau de professionnels, qui soient des tables, des hôteliers,
c'est ça,
de montrer des savoir-faire, des paysages, des territoires, un patrimoine aussi bâti.
Derrière ça, on met aussi le tourisme mémoriel, dont on a, ouais, beaucoup entendu parler l'année dernière, 2014, anniversaire à la fois du débarquement et puis du début de la Première Guerre mondiale.
Effectivement, et on continue à célébrer d'ailleurs le centenaire de 14-18. Effectivement, c'est vraiment un voyage dans le temps, à travers une perspective historique. C'est aussi justement une manière de revisiter, un peu de comprendre les drames ou les grands événements qu'ont vécu nos ancêtres, et puis leur impact sur leurs descendants.
On peut aussi participer à des chantiers pour préserver le patrimoine, tourisme, ouais, spirituel, tourisme humanitaire. C'est une affaire de bobo.
Non,
parce qu'en fait, ça a un coût, nous disait Josette Siksik, et c'est vrai. C'est une affaire de bobo
Tout a un coût, mais en fait, ouais, par exemple, je pense qu'il y a des évolutions fondamentales dans le tourisme, et qu'il faut, voilà, il faut en avoir bien conscience. Le tourisme a évolué, c'est un marché qui a évolué, qui a grandi. Effectivement, on est passé du tourisme de masse dans les années 60 à effectivement l'acquisition d'une culture touristique. Quand on a déjà voyagé 5, 6 fois, 7 fois, on sait ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On a aussi d'autres attentes. On est plus exigeant. Effectivement aussi, on est beaucoup plus informé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était inenvisageable, mais aujourd'hui, vous pouvez partir en plongée le long de, virtuellement, grâce à un navigateur d'un célèbre moteur de recherche. Vous pouvez vous faire la grande barrière de corail ou vous balader en plein centre de Rome. Donc vous partez avec déjà beaucoup d'informations, beaucoup de visuels et d'autres attentes.
Quand je disais tourisme de bobo derrière toutes ces formules de séjour mémoriel, de séjour humanitaire, de travailler à la préservation du patrimoine, je vous ai vu faire la moue, Josette Siksik.
Non, parce que le tourisme mémoriel, depuis que le tourisme existe, on fait du tourisme dit mémoriel. Il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires qui font des études, oui. qui travaillent sur le tourisme. Donc, on invente des mots, oui. mais pas des concepts. Oui. Le concept a toujours existé. Les premiers voyages organisés, qu'organisait le tourisme français après la guerre 14, c'était pour visiter les champs de bataille de, oui. de Verdun. Donc, ça n'a rien de nouveau. Le mot est nouveau. C'est comme le mot d'expérientiel. Tout le monde parle de tourisme expérientiel. Mais bon, quand on relit Théophile Gautier, Montaigne et autres, on s'aperçoit qu'il y a quand même 200 ans. Qu'est-ce qu'on cherche quand on part? On cherche à vivre une expérience. Donc après, je crois qu'il faut faire la différence entre le tourisme culturel, disons, passif, c'est-à-dire je visite, je découvre, et puis le tourisme auquel vous avez fait allusion, le volontariat, le tourisme spirituel, la retraite, etc. Donc on est actif, hein, oui. on va développer une activité qu'on n'aura pas pu développer pendant l'année. Mais alors là, on est peut-être plus sur, disons qu'on est on est sur un mainstream. Il y a 30 ans, les cours de yoga, les retraites dans les couvents, dans les ashrams, 30 ans, 35 ans, hein, on les pratiquait hein, déjà. Mais c'était une avant-garde qui le faisait. Aujourd'hui, on fait du yoga dans n'importe quelle ville de France ou du tai chi ou autre. Donc, ce sont des pratiques qui sont inscrites hein, dans le quotidien des gens et qu'on va développer pendant les vacances. Et ça sera évidemment, ça deviendra quasiment du tourisme de masse aujourd'hui. Hein. On est vraiment sur, on n'est plus sur une avant-garde.
Irène, au standard d'un jour en France. Bonjour Irène.
Oui, bonjour.
Nous avons un auditeur qui nous dit sur Twitter, est-ce qu'on va parler de tourisme durable? Ben, c'est un petit peu le sens de votre démarche. Vous êtes du côté de Grenoble, c'est ça?
Alors, on est à Chamonix, au ouais. pied du Mont-Blanc.
D'accord.
Donc, un lieu qui est particulièrement touristique et réputé, on va dire, pour le tourisme de masse.
Ouais.
Et on est une association à la fois de recherche scientifique et d'éducation à l'environnement.
Oui.
Et on a décidé cette année de proposer en fait des séjours et des week-ends de ce qu'on pourrait appeler volontourisme. Je crois que c'est un terme qui est assez populaire aux États-Unis.
Volontourisme.
Voilà, donc on est à la fois touriste et volontaire.
Oui.
Et ce qu'on propose, nous, donc on travaille beaucoup avec depuis 12 ans sur le principe de la science participative, c'est-à-dire ouais. Permettre à des amateurs non initiés à l'écologie de faire des relevés scientifiques pour nous et d'alimenter nos recherches sur le Mont-Blanc notamment.
Ouais.
Et ce qu'on propose, c'est à des gens qui ne sont pas au pied du Mont-Blanc de venir passer un week-end ou une semaine avec, nous on a trois objectifs derrière ça, c'est... faire découvrir la montagne autrement, l'écologie, sensibiliser à nos recherches, collecter des données parce que nos chercheurs ont besoin de données pour leurs études. Et puis la troisième, c'est vraiment, je crois, la rencontre avec notre association. Donc, une démarche associative aussi bien en termes de temps que de financement de l'association à travers ces séjours.
Merci pour ce témoignage, Irène. Au passage, l'adresse internet de votre association, et on la mettra sur le site?
Oui, donc c'est www.creamontblanc.org,
oui.
donc le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude à Chamonix.
Merci, c'est bien noté. Merci d'être intervenu. Patrick Marage?
Oui, parce que cette personne n'hésite pas à nous contacter, puisque nous, on édite notre guide du tourisme solidaire, avec notamment, effectivement, tout un chapitre sur l'écotourisme, l'éco-volontariat. Donc, on sera ravis de...
Bon, et ben voilà. Le lien est fait. Ce que nous disent aussi toutes ces formes de tourisme, c'est une personnalisation, au fond, des vacances. Vous allez même jusqu'à éditer, au petit futé, un guide personnalisé. Chacun peut avoir son guide de vacances.
Oui, enfin, en tout cas, l'idée, c'est effectivement, c'est une première mondiale qui permet aux internautes de créer, de composer eux-mêmes leur propre guide de voyage. Effectivement, les habitudes, aussi le tourisme intelligent,
oui.
ça implique aussi la personnalisation,
oui.
De prendre la main sur son voyage et de vraiment de le faire à sa façon. Et effectivement, on se rend compte aussi que beaucoup de gens vont faire des voyages. Alors voilà, ils peuvent partir du Périgord pour aller au Pays Basque, mais ils peuvent aussi partir de Lyon pour finir à Barry en passant par la France.
Et donc, par exemple, si je veux personnaliser la Bretagne, je choisis des sites particuliers, des activités particulières, et tout ça m'est transmis via Internet, sur la tablette.
Exactement. Voilà. Vous avez en fait une immense base de données dans laquelle en fait vont être piochées ces informations. Ouais. Vous renseignez en fait des critères de centres d'intérêt, effectivement, de catégories d'établissements. établissement qui vous intéresse, voilà, plus chambre d'hôte qu'hôtel, plus table peu chère que grand restaurant gastronomique, des activités, et du coup vous composez véritablement, vous sélectionnez en fait la formation qui est pertinente pour vous et qui vous intéresse. Personnellement, vous faites votre guide à vous, le guide de votre voyage.
Josette Siksik, que ça nous dit aussi toutes ces formules différentes, c'est le besoin de se, au fond, de se réinventer, de ressortir un petit peu différent des vacances, pas seulement reposer, mais un peu différent.
Oui, alors il y a deux choses. Hein. Il y a la première chose, bon, faut jamais oublier, il ne faut jamais oublier que le tourisme est une pratique ostentatoire. Hein. On essaye d'afficher sa personnalité à travers ses comportements touristiques. Donc dès qu'il y a eu tourisme de masse, il y a eu évidemment en réaction
volonté
à
de
tourisme
se distinguer.
Autrement. Voilà. Moi, je vais pas aller comme les autres taper la pétanque au Cap d'Agde. Je vais inventer un autre type de voyage. Aujourd'hui, ça devient très mainstream aussi parce que c'est facile. Vous avez des plateformes internet sur lesquelles vous pouvez réserver, vous pouvez fabriquer votre voyage tout seul. Hein. Ouais. On est en plein dans le do-it-yourself. Hein. Internet a considérablement augmenté les capacités des uns et des autres à justement fabriquer des voyages personnalisés. Donc on peut aller choisir l'hôtel, la chambre d'hôte qu'on veut sur un site. On peut choisir le billet d'avion qu'on veut sur un autre site. On peut trouver des activités sur place en dehors des guides. De notre confrère des Petits Futés grâce à ces plateformes de locaux, ça s'appelle les Local Guides, il y en a maintenant un petit peu partout dans le monde, qui sont des gens qui vous proposent de vous fabriquer un voyage sur... Enfin, fabriquer, qui vous donnent des renseignements. Hein. Moi, j'ai dit, je vais aller à Bologne, puis j'aime bien la musique. Ben, on m'a trouvé un confrère, journaliste, qui m'a fourni des tas d'informations sur les endroits où je pouvais aller écouter de la musique à Bologne, et se proposait même de me recevoir après de le faire. Donc il y a quantité de moyens aujourd'hui de personnaliser son voyage.
Chaud, oui.
Je pense que ça va aller en s'amplifiant, hein, c'est dans le sens de l'histoire, d'autant que c'est devenu extrêmement simple et parfois moins cher évidemment que l'offre marketée par des voyagistes. Donc il y a ça, la différenciation, et puis pour en revenir, excusez-moi d'être un peu longue, à la réinvention, ça c'est une vraie tendance que j'ai notée. Vous savez, des tendances, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-unes. J'ai eu l'impression depuis quelques années qu'il y avait une catégorie de gens parce que le quotidien est anxiogène, parce qu'on est quand même, on vit dans une société un peu privée d'avenir. Hein, les grandes causes, on n'y croit plus. Donc, le moment des vacances est un moment pour essayer de s'inventer une autre vie. Donc, on va tester des activités, une destination, souvent, hein. Tiens, je vais aller en telle île grecque, c'est peut-être l'endroit où, après tout, je pourrais aller vivre un jour. Et c'est une sorte de laboratoire, ce moment de vacances, une sorte de laboratoire expérimental pendant lequel on va essayer de se trouver la vie à travers une activité, à travers une destination, à travers des rencontres qui va un petit peu vous changer, qui va vous permettre de vivre autrement, quoi.
Alors, peut-être, par exemple... toucher du doigt le fait d'être écrivain. C'est la deuxième illustration réalisée par Philippe Lefebvre. On a appris tout à l'heure à fabriquer des parfums, enfin un petit peu. Hein. Et maintenant, un atelier d'écriture. Autre exemple de vacances dites intelligentes. C'est une dame qui s'appelle Natacha Sels qui en propose en France ou à l'étranger pour allier à la fois le plaisir du voyage à celui de l'écriture. Une semaine pour aider ceux qui ont envie d'écrire mais n'y arrivent pas forcément seuls à vaincre la page blanche. Des ateliers à la mer, en Bretagne, à la montagne ou à Paris. C'est là que c'est rendu, Philippe Lefebvre.
Bonjour Natacha.
Bonjour.
Alors c'est ici l'atelier d'écriture ?
Absolument. Installez-vous.
Natacha, un atelier d'écriture, ça sert à quoi ?
À rien. Surtout à rien. L'atelier d'écriture tel que je le conçois, c'est plutôt un espace de jeu et sans enjeu, justement. Alors c'est un endroit, le mot atelier le dit bien, c'est un endroit où on peut essayer, on peut tâtonner, on déploie son imaginaire, on est à l'aise dans une certaine liberté d'expression et une authenticité.
J'ai l'impression que vous recréez un petit peu l'univers des écrivains. C'est-à-dire, on se met dans une maison isolée au bord de la mer, en pleine campagne, et on crée.
Sauf qu'on n'est pas tout seul, justement, devant sa feuille blanche. On est un groupe de personnes qui se réunit. Et donc, il y a un animateur qui est là quand même, qui propose des exercices qui déclenchent l'imaginaire. Bien sûr, lire son texte n'est pas toujours facile, mais il y a une super récompense à la clé, c'est qu'on a un auditoire tout de suite après et qu'on sait ce que le produit notre texte sur les autres.
Au-dessus, un ciel tout bleu, au loin les montagnes argentées. Julie a soudain le sentiment d'être au cœur d'une carte postale.
Ça se passe comment, un stage en Bretagne ?
Ça se passe dans un endroit formidable, une maison face à la mer. Tous les matins, on écrit, on voit la mer, on voit les bateaux, on voit le ciel, on voit les couchers de soleil le soir. Donc déjà, rien que pour ça, on est en vacances. C'est vrai qu'on écrit, mais pas toute la journée. On écrit un peu le matin, on va se balader, on écrit le soir, on dîne ensemble, on reprend les repas ensemble. On rit beaucoup, on échange. Et puis, au fil des temps, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se construit. Au départ, on a l'impression que c'est très dispersé. Et enfin, à la fin du séjour, on a quelque chose de solide devant nous.
La plupart des détenus sont des hommes en rupture familiale et je leur sers de conseillère, de confidente. Je suis souvent leur unique référence féminine dans cette longue tranche de vie carcérale.
L'écriture, c'est d'autant plus difficile que le vide devant la page blanche existe. On ne sait pas quoi écrire. En écrivant dans un atelier d'écriture, vous êtes pris en main comme ça. On vous emmène sur un chemin et puis après, on vous lâche un petit peu. Vous faites quelques pas tout seul et puis vous découvrez que c'est très sympa. Et effectivement, à chaque fois que je fais un atelier, je sors de là avec une énergie et une bonne humeur. D'ailleurs, chez moi, tout le monde me pousse à y aller parce que je suis charmante quand je reviens à la maison.
C'est quand même une vraie démarche de prendre du temps, parfois pendant ses vacances, pour quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, du tourisme contemplatif.
Mais parce qu'on ne fait pas que écrire, on est souvent dans de très beaux endroits, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, des endroits inspirants. On prend du temps pour soi, mais pour se ressourcer aussi, c'est-à-dire qu'il y a des balades possibles, on prend du bon temps en fait. Donc je crois qu'un des compliments qu'on m'a fait qui était le meilleur, c'est qu'ils avaient été contents au bout du compte de la nouvelle qu'ils avaient écrite au bout de la semaine, et qu'en réalité ils n'avaient pas eu l'impression de travailler mais d'être en vacances.
Voilà pour ce reportage de Philippe Lefebvre, cette remarque de Michel. On dirait que c'est grave de ne pas partir en vacances, être bien chez soi à la campagne. Ce qu'on a localement peut très bien nous suffire aussi. Non, demande-t-il, point d'interrogation. La réponse est oui, vous avez raison. Cette remarque d'Anne-Marie, les vacances sont surtout proposées pour les familles ou les couples. Quand on est seul, il n'y a pas grand-chose. Avez-vous des propositions? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas beaucoup de propositions,
oui. Josette Sixic? Oui, c'est un vrai problème, hein, la solitude. Hein. Il y a, moi, dans des enquêtes que j'ai pu faire, certaines personnes me disaient, surtout des femmes, plutôt que de partir seule, je préfère ne pas partir. Donc c'est difficile de trouver le compagnon ou la compagne de voyage qui va vous permettre de partager ce voyage. Alors aujourd'hui, heureusement, il s'est créé quelques agences pour les solos qui mettent en relation effectivement des gens qui après peuvent partir ou en groupe ou partir en individuel, hein, mais à deux ou à trois. Disons qu'il était temps, hein, mais c'est quand même la solitude est un peu un espace que les opérateurs de tourisme n'ont pas investi.
Oui. Patrick Marin, voilà une idée de guide pour le petit futé.
Oui, effectivement, c'est une bonne idée.
Vous avez des guides de plus en plus thématiques.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ça correspond. On le voit avec l'explosion du nombre de niches touristiques, effectivement, et le alors on traite pas de guide, de la solitude. Voilà, c'est pas vraiment une niche. Enfin, c'est un peu compliqué de faire un guide sur cette thématique-là. Après, je pense que à travers notamment les outils disponibles et effectivement des démarches qui ont été enclenchées par certains voyagistes, je pense que il est vraiment possible de ne plus voyager seul. En tout cas, de rencontrer avant de partir, il est assez facile, même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de rencontrer des gens qui ont les mêmes âges ou même centres d'intérêt que nous et qui pourront peut-être sur place nous montrer des choses. Donc finalement, je pense que les outils justement à disposition permettent de...
Alors justement, Josette Sixic, est-ce que à la fois les réseaux sociaux, les formules type Airbnb ont réellement changé, alors pour les solos, pour prolonger cela, est-ce que ça permet de partir plus facilement? On dit grâce à tout cela, on peut aller à la rencontre des gens chez eux, découvrir leur région avec eux, faire du couchsurfing, etc. Est-ce que ça a réellement changé les choses?
Oui, incontestablement. On ne peut pas nier qu'effectivement, on a entre les mains des outils qui vous permettent de mieux communiquer, avec la terre entière en un clic, très simplement. Mais encore faut-il avoir envie il y a quand même toujours une sorte de timidité hein, de la part des gens qui sont seuls. La timidité qui peut être due à l'âge, qui peut être due à l'éducation des gens. C'est un peu une aventure hein, de s'embarquer avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc disons que oui, il y a des outils qui existent, il y a des formules. Hein, le couchsurfing, effectivement, hein, c'est une formule. Mais avec tout, enfin le couchsurfing, je répète pour ceux qui ne le savent pas,
dormir chez l'habitant.
Voilà, sur un canapé au départ et de manière totalement, totalement gratuite. Bon, mais aussi avec les dangers que ça présente. Hein, il y en a quand même de part et d'autre. Donc c'est mieux qu'avant, disons, mais bon, c'est pas encore très facile non plus.
Patrick Marage, un petit mot.
Oui, on voit notamment dans l'engouement autour, par exemple, de pèlerinage type Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Qui est un phénomène aussi global, qui dépasse en fait la communauté des croyants, et qui effectivement semble assez adapté à cette optique où c'est un tourisme où on va aussi, c'est l'occasion d'un voyage intérieur le long d'un chemin, et on va être avec des gens quand on a envie d'être avec des gens, et on va retrouver ces moments de solitude oui. quand on va les vouloir. Et donc effectivement, c'est un type de voyage adapté à une certaine liberté aussi dans la solitude.
Message de Dominique. Lorsque mes enfants étaient petits, il y a une trentaine d'années, bien que n'ayant pas de gros moyens, on partait un mois en louant une maison plus simple, mais en Provence, que nous aimions beaucoup. Maintenant, ça devient impossible. Les maisons ont été rachetées, leur prix de location inaccessible. Mes enfants, maintenant, ne peuvent partir que une ou deux semaines par an. Ils ont des salaires moyens. Voilà, depuis que je suis en retraite, je ne voyage pas. Est-ce qu'il est de plus en plus cher, malgré toute la diversité des offres, malgré le low cost, malgré les réseaux sociaux? Voilà, cette dame nous dit, il y a 30 ans, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Bon, alors, il faut quand même rappeler qu'il y a 30 ans, il y avait des vacances très... des monovacances. Hein. On partait toute la France fermée le 31 ouais. juillet. Et on partait... Non, il n'y a pas 30 ans. C'était avant la cinquième semaine de vacances.
C'était 80.
Donc, c'était avant 81. Donc, il y a 40 ans à peu près. Donc, on ne se posait pas de questions. On partait un mois en vacances. Mmh. C'était les vacances de M. Hulot. Hein. Mmh. On allait soit dans la pension de famille, soit dans un gîte, soit dans une maison de location. Je pense que la dame fait allusion au Luberon. Bon, effectivement, il y a 40 ans, les maisons étaient encore relativement accessibles. Après, il y a un effet de mode qui fait que tout ça...
Et globalement,
donc, globalement, on partait un mois avant, quand on partait, hein, quand on faisait partie de ces... On était plus nombreux d'ailleurs à partir hein, dans les années 60-70. On était autour de 70% hein, en départ en vacances.
Paradoxalement, on était
voilà.
plus nombreux.
Et après, il y a eu fractionnement. Donc, il y a eu la cinquième semaine de vacances, il y a eu les RTT. Donc, les rythmes se sont complètement déstructurés et les vacances estivales ont raccourci. Et on est effectivement sur une douzaine de jours à peu près en moyenne sur les vacances estivales, ce qui est très peu par rapport aux autres vacances. Mais on part plusieurs fois dans l'année, chez les copains, de la famille, etc. Donc il faudrait savoir si les enfants de la dame ne partent vraiment qu'une seule fois, 12 jours, ou s'ils partent quand même en week-end de temps en temps.
Alors, votre c'est notamment un site, Touriscopie. Au fond, ce qui est passionnant, c'est qu'il est au carrefour de la société et des vacances. Parmi les événements importants dans la société ces derniers mois, on arrive à la fin de l'émission, il y a eu les attentats. Quel impact, sur la façon de partir en vacances depuis et sur ce qui pourra se passer cet été?
Bah, la demande de sécurité, hein, ça c'est absolument flagrant. Je crois que personne ne peut nous contredire. Bon, il y a d'abord eu le 11 septembre. On a commencé à avoir peur alors qu'on vivait dans un monde où on n'avait pas peur de prendre l'avion, si ce n'est pour quelques anxieux. Puis le terrorisme s'est banalisé. On a eu tous les attentats l'année dernière et en France et en Tunisie, en Égypte, etc. Donc bien évidemment, il ne faut pas être devin pour savoir que le Maghreb va être de nouveau sinistré.
Et en
que
France,
l'Égypte
ça,
va
ça a
l'être.
Un impact en France?
Non, alors au contraire, on se réfugie. Alors, attendez, les Français se réfugient en France hein, et sur de la proximité. Par contre, le gros impact, c'est sur le tourisme international.
Toujours.
On a une baisse absolument énorme des clientèles asiatiques, notamment, et des clientèles américaines. Et on n'a pas de visibilité. Je me le suis fait confirmer par un voyagiste qui m'a dit on n'a aucune, le plus gros hein, sur Paris, on n'a aucune visibilité sur les mois à venir. On n'a pas de réservation. Ça n'était jamais arrivé. Donc, c'est un petit peu difficile de faire des pronostics. Je crois que sur la vente des guides, vous devez le voir aussi.
On va s'arrêter là, oui. Ça...
Oui, ça. Après, c'est un peu les vases communicants. Effectivement, on ne va pas dans une destination, on va dans l'autre.
Mais voilà. En tout cas, pour la clientèle étrangère, voilà, l'impact est réel et il n'a pas fini de se manifester.
Et non, moi, je croyais qu'il y avait eu un petit redressement et Bruxelles a été fatale. Là, ça a été...
Merci à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Inter, 10h47. French Touch, un peu de France parcouru en roue libre. Le site slate.fr a épluché le fichier des noms de rues dans toutes les communes de France. Longue enquête en plusieurs volets, amusante et passionnante. Alors, quels sont les personnages les plus célébrés par les noms de rues, de places, d'impasses ou d'avenues? Les 10 premiers du palmarès, que des hommes et stars des stars.
Françaises, Français, nos voeux pour la nouvelle année sont à la mesure de la France nouvelle.
Le général de Gaulle, 3900 plaques à son nom, dont un paquet de places qui disent l'importance accordée au personnage. Ensuite viennent les boulevards Louis Pasteur, les cours Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin. Le palmarès des 200 noms les plus donnés aux rues, places et avenues dresse une France qui préfère la littérature aux sciences, la politique à l'économie. Une France marquée par les guerres les plus récentes sur son territoire. Alors où sont les femmes? Seulement 15 dans le top 100, et encore l'une d'elles s'appelle George Sand. Avant elle, il y a Notre-Dame, Marie Curie, Jeanne d'Arc. Ça progresse petit à petit. Dès qu'elles le peuvent, certaines villes, Paris par exemple, féminisent les noms de rues et de stations. Dans le nouveau tramway T3, station Colette Besson, Rosa Parks ou Delphine Seyrig. Mais il y a évidemment moins de nouvelles rues aujourd'hui qu'il y a quelques décennies. Dernier volet intéressant, les déclinaisons régionales et même départementales à chaque morceau de France, ces grands hommes, dans le Cantal.
Je voudrais jeter un coup d'œil avec vous sur la situation de notre pays.
Eh oui, dans le Cantal, le général de Gaulle passe après son ancien Premier ministre, Georges Pompidou, né à Montboudif. Beaucoup de noms de rues ou de places au nom de Pompidou. Dans le Midi, Frédéric Mistral, superstar. Pas mal de Parmentier en Picardie, pays de pommes de terre et surtout pays natal de celui qui a beaucoup fait pour la popularisation de la patate. Mais le plus flatteur, c'est peut-être quand un artiste ou un grand homme a marqué une région, non parce qu'il y a poussé ses premiers cris, mais par son action ou son œuvre. Le nom de Leclerc, le général, fleurit le long du parcours de la 2e division blindée. Et Zola, qui a vécu entre Paris, les Yvelines et la Provence, a conquis le nord de la France grâce à Germinal. Ça, c'est la grande classe. sur France Inter. Hervé Pochon dans un instant. Pour l'instant, Face My Moon Man. Sur France Inter, programmation musicale d'un jour en France, Jean-Michel Montu.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0.
Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour Hervé Pochon.
Bonjour Bruno Duvic, bonjour à tous. Alors hier, nous étions toujours devant l'église Saint-Ambroise et maintenant, nous sommes mis en mouvement vers le gymnase Japy, toujours à Paris. Et là, il y a essentiellement des Noirs, puisque c'est pour, toujours pas dire célébrer, repenser,
commémorer
les 20 ans de l'occupation de l'église Saint-Ambroise. Et beaucoup de Noirs, mais quelques Blancs, avec des cheveux blancs. Donc, je m'approche.
Monsieur, je peux vous demander ce que vous faites là ?
Je manifeste pour commémorer les 20 ans des événements de Saint-Bernard.
Et en quoi ça vous touche ?
Ça me touche parce que j'y ai participé.
Il y a 20 ans, vous étiez déjà là ?
J'étais là, non, mais j'étais à l'église Saint-Bernard. Et j'ai assisté à l'expulsion des sans-papiers de Saint-Bernard. Les CRS sont entrés dans l'église à coups de hache et ont expulsé manu militari, hommes, femmes, enfants, vieillards, enfin tout ce qui s'y trouvait.
Vous étiez dans l'église quand ils ont...
Non, j'étais devant l'église où on essayait de monter la garde, mais notre petit rideau a été percé rapidement. Et on s'est retrouvés, nous aussi, sous les coups.
Et qu'est-ce qui vous avait incité, il y a 20 ans, à être solidaire des sans-papiers ?
Parce que j'ai longuement travaillé en Afrique comme chercheur. J'ai été reçu dans un très grand nombre de villages africains. Très bien reçu, chaque fois. On me donnait la meilleure chambre, on m'accueillait comme un prince. Et alors, quand j'ai vu la manière dont la police de mon pays traitait des gens qui étaient, disons, les cousins éloignés de ceux qui m'avaient reçu, alors j'ai été pris d'une grande colère. Et je me suis mis dans les rangs des gens qui les soutenaient.
Je parle votre nom.
Emmanuel Terray. Je suis ethnologue. Anthropologue, si vous préférez.
En tant qu'anthropologue, est-ce que vous avez une idée du nombre de sans-papiers aujourd'hui ?
En France ? Oui. Le ministère de l'Intérieur dit 400 000. Mais il dit 400 000 depuis 30 ans. Ça veut dire qu'il en expulse bon an, mal an 20 000 ou 25 000 et qu'il en arrive à peu près autant puisque le chiffre total se maintient. En fait, il y a un volant de sans-papiers qui est à peu près constant et qui travaille chez les sous-traitants des grandes boîtes du bâtiment, dans l'hôtellerie, dans la restauration et qui sont indispensables au fonctionnement de ces secteurs.
Merci en tout cas. Bienvenue à tous. À Paris, on est parti de l'église Saint-Ambroise et on se dirige vers le gymnase Japy. Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom ?
Touré Mamba.
Mamba.
Oui.
Vous êtes sans papier ?
Sans papier, oui.
Depuis combien de temps vous êtes en France ?
Depuis 2013.
Et vous venez d'où ?
Je viens du Sénégal.
Qu'est-ce qui vous a incité à venir en France ?
Déjà, pratiquement, le Sénégal est un pays colonisé par la France. Et aussi pratiquement, par rapport à l'immigration, la destination idéale pour un Sénégalais, c'est la France. Ouais.
Mais pour vous, c'était difficile de quitter votre pays ou vous étiez content de partir à l'aventure ?
Ouais, j'étais trop content de quitter mon pays pour venir en France, espérant avoir une vie meilleure par rapport à ce que je vivais au pays. Ouais.
Qu'est-ce que vous viviez, vous ?
J'étais déjà travailleur au pays. Parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir un visa facilement pour pouvoir venir en France.
Ah oui. Parce que vous êtes venu en France en avion ?
Je suis venu en France avec, par avion, oui, avec un visa court séjour. Ouais. Et espérant venir ici, vivre dans des conditions meilleures que ce que je vivais au pays.
Ouais.
Mais malheureusement, quand je suis arrivé, vu la situation que j'ai trouvée sur place, j'étais complètement abasourdi.
Ah oui, vous avez été surpris.
Ce qui m'a surpris, c'est par rapport à quand on est au pays de l'autre côté, dans un pays du sud, ce qu'on croit être, quand on arrive en Occident, c'est tout à fait différent. Les conditions d'existence pratiquement sont de plus en plus difficiles. Et pour avoir un papier déjà, c'est compliqué. Et ici, pour travailler déjà, il faut avoir un papier, avoir un numéro de sécurité sociale. Et vu pratiquement ce qui est demandé à un étranger pour pouvoir avoir un papier, un titre de séjour, c'est la croix et la bannière.
Vous y croyez encore aujourd'hui ?
J'y crois, c'est ce qui a fait que pratiquement là je suis délégué dans une association de lutte pour les sans-papiers dans le 93. Je suis actif dans la lutte et j'y crois par rapport pratiquement au combat pour pouvoir arriver à un jour changer la loi, pour pouvoir arriver à faire régulariser les gens qui vivent de façon irrégulière sur le territoire français.
Est-ce que vous travaillez, vous, aujourd'hui en France?
Oui, je travaille.
Vous travaillez dans quoi?
Je travaille dans la restauration, avec ce qu'on appelle un alias.
Un alias. C'est quoi un alias? Une fausse carte d'identité?
C'est pas une fausse carte d'identité, mais c'est une vraie carte d'identité, mais avec un nom d'emprunt.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous avez acheté ou que
un réseau
vous a donné?
Parce que, comme je vous ai dit tantôt, ici, pour travailler, il faut être en situation régulière. Il faut avoir un titre de séjour, il faut avoir la carte vitale, avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, de ce fait, pour pouvoir travailler, si on n'est pas dans ces conditions-là, on est obligé pratiquement d'avoir trouvé une solution pour travailler.
Mais ça veut dire qu'en fait, en travaillant, vous cotisez pour quelqu'un d'autre?
Oui, mais on n'a pas le choix. Ouais. C'est un choix qu'il faut faire. Cotiser pour un autre, avoir de quoi vivre à la fin du mois ou rester sans rien. C'est un choix qu'il faut faire.
Vous disiez que quand vous êtes arrivé, vous avez été abasourdi. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, mais je vais retourner dans mon pays?
Non, j'y ai pensé au début en un certain moment. Mais en discutant avec des proches et des amis, ils m'ont convaincu que pratiquement retourner, ce n'est pas la solution.
Et vous avez quel âge?
J'ai 32 ans en ce moment.
Donc, il y a 20 ans, quand le mouvement des sans-papiers devant l'église Saint-Ambroise a commencé, vous aviez 12 ans et vous étiez au Sénégal. Et vous en avez entendu parler de ce mouvement?
Pas trop, mais c'est quand je suis venu ici et que j'ai pu avoir écho de ce mouvement-là. Et que vu les explications qui m'ont été données, j'ai été séduit par la volonté de ces gens-là. Ce qui m'a permis aujourd'hui pratiquement d'être élu délégué dans la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers et d'expliquer aux camarades qui viennent que les conditions ici ne sont pas faciles et que rien ne se donne, tout s'obtient par la lutte.
Je vous remercie.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve pour demain.
Et si on veut approfondir, il y a le livre d'Emmanuel Théré, l'anthropologue qu'on a entendu en début, qui s'intitule « Immigration, fantasme et réalité » aux éditions La Découverte.
À demain Hervé Pochon.